voici le journal de l'écho par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, le décryptage écho se concentre sur la situation économique d'Israël, 5 mois après le 7 octobre et le début du conflit de l'État hébreu contre le Hamas à Gaza. Si l'enclave, dont l'économie était déjà fragile, est à présent en lambeaux, au bord même de la famine, Israël connaît de plus en plus de difficultés liées évidemment au ralentissement de l'activité économique traditionnelle pour un effort de guerre inédit dans sa longueur et dans son intensité. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem et vous nous confirmez que les indicateurs économiques de l'État hébreu sont dans le rouge.
Une guerre, évidemment, ça coûte cher, et surtout quand elle dure et qu'elle mobilise des femmes et des hommes de la société civile, car c'est une des particularités ici. Israël a une des dernières armées occidentales de conscrits. 350 000 réservistes ont été mobilisés au lendemain de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. C'est 4% de la population active, des jeunes pour l'essentiel employés dans la high-tech, et évidemment ça pèse sur une économie dont 16% du PIB dépend du secteur des nouvelles technologies. Ajoutez à ça le blocus sur la Cisjordanie occupé qui a des conséquences importantes sur le ralentissement de l'économie. Avant le 7 octobre, 150 000 travailleurs palestiniens participaient à la croissance israélienne. Ils sont désormais assignés à résidence et les secteurs du bâtiment et de l'agriculture, par exemple, tirent la langue. Conséquence, le contexte économique est morose. La croissance a perdu 20% entre fin 2022 et le dernier trimestre 2023 et la dette devrait augmenter de plus de 55 milliards d'euros cette année.
Et pourtant, Thibault, cette situation économique israélienne pourrait être bien pire.
Car avant la guerre, les indicateurs économiques étaient au beau fixe, avec un taux de chômage peu élevé, une dette relativement contrôlée. Elle représentait 60% du PIB avant le 7 octobre. À titre de comparaison, la France a dépassé les 110%. Non, ce qui inquiète pour le moment les économistes, ce n'est pas la guerre à Gaza et ses conséquences, mais plutôt les perspectives politiques du pays, avec un gouvernement d'extrême droite au service des intérêts de deux minorités, les religieux ultra-orthodoxes d'un côté, les colons de Cisjordanie de l'autre. Ils profitent de choix budgétaires clientéliste au détriment évidemment de l'intérêt général. Yael Ifra est ancienne conseillère parlementaire, elle est aussi spécialiste des questions d'économie et de consommation.
L'agence de notation de crédit Moody's a abaissé la note d'Israël il y a environ 15 jours pour la gestion calamiteuse du gouvernement en place avec un ministre des Finances Bezalel Smotrich qui ne connaît rien à l'économie et qui ne s'en cache pas, avec un budget qui a été entièrement orienté vers des choix sectoriels visé à satisfaire les partenaires de coalition de Benjamin Netanyahou et à le maintenir au pouvoir, et aucun moteur de croissance, donc aucune dépense orientée vers l'éducation, vers le travail des populations ultra-orthodoxes, et c'est plutôt ça qui inquiète les marchés.
L'autre inquiétude, c'est la régionalisation du conflit. Le Hamas a appelé les Palestiniens de Jérusalem-Est et de Cisjordanie à se révolter pendant le mois de Ramadan qui commence dimanche ou lundi. Et puis l'intensité des combats à la frontière libanaise avec le Hezbollah pourrait augmenter. L'économie israélienne a les reins solides pour amortir les coûts de la guerre à Gaza. Mais avec un ou deux fronts supplémentaires et une nouvelle mobilisation des appelés, le choc pourrait être beaucoup plus compliqué à amortir.
Thibault Lefèvre, merci. On retrouve votre décryptage écho à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture. Aux États-Unis, dont les indicateurs révèlent au contraire une très bonne santé économique, les élus de la Chambre américaine des représentants ont finalement adopté hier une partie du budget 2024 à la veille du discours sur l'état de l'Union de Joe Biden. Et avec 5 mois de retard, jusque-là ce n'était que des prolongations de budget qui étaient votées. Un programme de dépenses donc de 467,5 milliards de dollars que le Sénat doit maintenant adopté pour éviter la paralysie d'une partie des institutions, le fameux shutdown. Cela étant, la partie la plus sensible du budget américain n'a pas encore été approuvée. Elle concerne notamment la sécurité intérieure. En France, les questions budgétaires sont aussi à l'ordre du jour. Hier, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave ont justifié devant les parlementaires leur plan d'économie de 10 milliards d'euros en 2024 sur les dépenses de l'État. Et ils annoncent un nouveau serrage de vis de 20 milliards d'euros au moins en 2025 sur les autres dépenses publiques, notamment celle de la sécurité sociale. Pour Bruno Le Maire, ces économies sont nécessaires après une révision en baisse de la prévision de croissance pour cette cette année de 1,4 à 1%, à peine 2 mois après l'adoption du budget. Dans quelques semaines, les agences de notation se prononceront sur la note de la France. Antoine Magnan, c'est le nom du nouveau dirigeant de Tracfin, la cellule de renseignement financier attachée au ministère de l'économie, chargée de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude fiscale. Cette énarque spécialisée en fiscalité, comptabilité et lutte contre la fraude était directeur général adjoint des finances publiques à Bercy depuis 2018. Il succède à Guillaume Valette-Valla, parti après la diffusion d'un rapport interne très critique sur sa gestion qui mentionnait notamment des burn-out, des arrêts maladie à répétition et un taux de départ et de remplacement des employés exceptionnellement élevé. Enfin, on en parlait hier dans le décryptage éco, la Banque Centrale Européenne réunit aujourd'hui ses gouverneurs avant d'annoncer certainement un nouveau délai pour la baisse de ses taux directeurs. Ils devraient rester, comme depuis octobre, à leur plus haut historique 4%, malgré l'impatience des investisseurs et le recul partiel de l'inflation.